Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast spécial 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. Donc pour ce podcast, on a prévu de parler de mixité avec, une fois n'est pas coutume, un panel entièrement composé de femmes. Donc on avait déjà fait un podcast sur le thème il y a 2 ans, d'ailleurs j'en faisais partie, d'ailleurs c'était mon premier podcast pour Gameblog, les choses ont bien changé depuis. Donc on voulait faire un point sur ces 2 dernières années pour voir un peu ce qui s'était passé, les moments marquants, et voir si les choses avaient évolué, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on peut être optimiste aussi pour l'avenir. Et pour en parler, donc j'ai 3 intervenantes qui sont du milieu ultra créatif du jeu indé. Donc on commence par Fanny, Red Fanny, Fanny Renard, enfin de son pseudo Red Fanny, c'est compliqué oui, avec les pseudos, qui est community manager de Goblin Studio, qui est un studio indépendant de jeux vidéo français, et qui a aussi été streameuse, ou je sais pas si t'es encore streameuse, ou si
un tu streames moins. Un petit peu, j'essaye, j'ai un petit peu arrêté, faudrait que je reprenne.
Mais... Et t'es aussi passée par Ubisoft, où tu étais level designer.
Level artiste, okay,
presque.
C'est ça.
Et ensuite, on a Anna Bressan, donc, qui est cofondatrice et game artiste du studio indépendant Red Studio, français aussi. C'est ça?
C'est exactement ça. Du coup, on a 2 raids ici. Hein, mais
oui,
bon,
c'est vrai.
Ravi.
2 raids et 2 goblins, du coup.
Oui.
Parce que Carla Tissi est QA testeuse, ou testeur, je l'avoue, je ne sais pas comment on dit,
moi,
c'est un anglais.
Moi, je dis testeuse, mais en fait, les 2 se disent, si tu Francis, c'est testeuse, mais okay. Les 2 se disent, on comprend.
Donc QA testeuse pour Goblin Studio.
C'est ça.
Et t'es aussi passée par l'école eArtsup.
C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai fait 2 ans dans une école de game design. Et actuellement, j'ai quitté l'école et je suis à Goblin Studio.
Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est QA testeuse pour ceux qui ne connaissent pas, parce que
exactement.
C'est un métier un peu plus méconnu.
Alors, il faut savoir déjà que c'est très différent des playtests. Quand on fait des playtests, on est joueur. Quand on est QA testeur, c'est notre métier. Donc en fait, basiquement, notre métier, c'est de jouer, mais plutôt de tester. C'est-à-dire qu'on va devoir... Fanny avait fait une très belle présentation sur ça en disant on est un peu l'inspectrice des travaux finis. Bah, c'est un peu ça. On doit vérifier déjà, en premier temps, le report de bugs. Et notamment, quand on est dans un studio de jeu indé, on va devoir vérifier le balancing, le game design, la compréhension des joueurs et du support joueur aussi. Donc, c'est principalement... Ça tourne autour de ça, quoi.
Et après, j'imagine que t'es multicasquette et vous aussi, d'ailleurs, toutes les deux, puisque c'est souvent ça dans le jeu indé. Donc, est-ce que tu fais d'autres tâches? Par exemple, vous revenez de la PAX Boston. J'espère que ça s'est bien passé, vous n'êtes pas trop fatiguée.
On était très fatiguées, parce qu'en plus, il y avait le jet lag, 6 heures de décalage, etc. Mais c'était vraiment super cool d'avoir les retours des gens en vrai. Parler anglais pendant 5 jours, ça
tu t'es super bien débrouillée. Merci. J'étais vraiment épatée.
C'est très gentil.
Parce qu'il faut rappeler quand même que Carla a 8 ans de moins que moi, pour ne dire aucun de nos 2 âges.
Voilà, ça, c'est
comme ça.
Dit, c'est bon.
Et franchement, elle s'est super bien débrouillée en anglais. Elle a assuré, elle a parlé aux gens, vraiment, genre... Moi, je sais qu'il y a 8 ans, j'étais pas à l'aise comme ça de parler,
parler
à des gens. Et...
C'était la passion du jeu, franchement. J'étais tellement passionnée de parler de nos jeux que...
La fameuse passion.
Ah, ouais. Non, clairement, c'était vraiment super cool. Et même d'avoir des retours, en vrai, quand on est QA tester, c'est méga important. Les gens étaient... Enfin, en plus, on a eu des super retours. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir bossé sur un truc et que les gens, ils disent que ça marche bien, quoi. Clairement.
Et du coup, toi, t'es community manager, mais tu fais aussi un peu de narrative design, c'est ça, pour Goblins aussi?
C'est ça. Mon objectif, c'est de devenir narrative designer. Du coup, je gratte un peu des tâches comme ça, des petits bouts de dialogue, des petites choses à écrire. Mais après, c'est vrai qu'en tant que community manager, déjà de base, en fait, j'écris des tweets, même si c'est un format très différent d'un format scénario. C'est un format très court. Mais après, je suis sur d'autres plateformes, genre Imager laisse plus de place à l'écriture aussi. Il y a plein d'autres, plein d'autres réseaux sociaux où je peux un petit peu plus écrire. J'écris des newsletters aussi, j'écris les news team. Donc il y a plein de choses que je fais et je suis aussi Game Hunter. C'est mes 3 casquettes.
Explique.
Alors,
s'il te plaît, ça m'intéresse.
En fait, notre studio, il est à la fois publisher et développeur. Donc, on développe un jeu en interne et en même temps, on a donc 4 jeux qu'on publie en ce moment. 5
4 qui vont arriver. 5 qu'on a
annoncé.
5 qu'on vient de publier. Un cinquième qu'on a publié il y a 1 mois et d'autres qu'on a publié il y a quelques temps.
Bon, il y en a pas mal.
Ouais, voilà. Mais 4 qui vont arriver.
Voilà. Et du coup, on cherche toujours des nouveaux projets à financer. On les finance. Ensuite, on les aide en termes de community management. Et on les aide aussi pour le marketing, les stratégies, tout ça. Donc, c'est super intéressant et c'est super varié.
Du coup, t'aides à trouver ces jeux-là à éditer pour Goblins.
C'est ça. Et ensuite, quand on les signe, j'aide avec le community management.
Donc, t'es chercheuse de tête.
Chasseuse de tête, mais pour des jeux.
Ouais.
C'est ça.
C'est assez stylé.
Mais ce qui est cool dans le jeu indé, c'est qu'en fait, vu que c'est des petites boîtes, on a beaucoup de casquettes. Et bah, comme Carla le disait, en fait, tu fais plein de choses différentes. À la différence de mon expérience avec Ubisoft, où bah, du coup, j'avais une tâche.
Trois spécialisations. Moi, c'était pareil quand j'avais fait mon stage, du coup, en tant que QA tester dans une boîte de jeux mobiles qui a été rachetée par Ubisoft, du coup. Et c'était, voilà, on avait une tâche, on faisait la tâche, et c'était comme ça. Là, en fait, on demande notre avis, par exemple, sur des trailers à faire. Par exemple, je fais beaucoup de records pour Fanny. Vu que moi, je joue beaucoup au jeu, elle me demande des trucs spécifiques, et je lui donne des records. Comme ça, ça va beaucoup plus vite, en fait. Et tout le monde est content.
Et toi, après, Anna, t'es cofondatrice, donc c'est aussi un petit studio.
C'est aussi un
parmi tes
studio,
tâches, ouais. J'imagine que tu dois aussi avoir des tâches assez diversifiées.
Exactement, elles sont assez larges. Donc, je m'occupe de tout ce qui est création artistique. Donc, je suis la directrice artistique. Je m'occupe des visuels. À côté, je gère le marketing. Et aussi, on met en ligne des vidéos que j'ai moi-même montées, qui racontent du coup le développement de nos jeux qu'on peut créer. Voilà, au cours de cette année, par exemple, on crée un jeu vidéo qui est en VR. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que le contenu là-dessus sur le réseau, pour l'instant, il est très peu utilisé. Il est très
c'est
peu
encore
détaillé.
Nouveau, oui.
Oui, c'est très nouveau. Et il faut savoir que dans le développement, bah, voilà, la programmation, il y a tout à faire. Beaucoup de documentation existe, mais la documentation actuelle est en anglais et pas forcément accessible à tous. Donc là-dessus, on essaye de rendre ça voilà, accessible à tous.
Donc maintenant que les présentations sont plus que faites, on va parler de mixité. Donc j'ai voulu commencer par un disclaimer déjà. Pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'on veut avoir plus de femmes ou plus de diversité en général dans le jeu vidéo? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vous avez quelque chose à répondre là-dessus?
J'ai envie de troller. Non, les femmes, c'est nul, franchement, faut arrêter.
Ça apporte que des problèmes.
Mais oui, c'est que des problèmes.
Après, les hommes, elles ne tiennent pas leurs hormones, etc.
Et on est contre, et maintenant, on peut s'arrêter là et on s'en va.
Allez, on va aller dormir. Non, mais oui, clairement, la mixité, c'est un truc super important. Et puis, bah, déjà, parce que nous, on est des femmes, donc forcément, c'est un sujet qui nous concerne. Mais... en fait, c'est pas forcément vrai ce que je viens de dire, parce que j'ai plein d'amis qui travaillent dans le jeu vidéo qui sont des amis i et qui sont hyper concernés, et même notre boss, c'est super cool. On est dans une boîte où vraiment ils s'engagent, et ils sont d'ailleurs partenaires de Women in Games, et
merci.
Mais ouais, c'est quelque chose de super important, déjà d'un point de vue de la représentation des femmes, donc parce que le jeu vidéo, en fait, on est un média qui a énormément de visibilité, et du coup, bah, autant que le cinéma, ou voire même plus.
Ça parle à tout le monde.
Ça parle à tout le monde.
Ils sont représentés, tout le monde.
Et du coup, si les femmes dans le jeu vidéo sont représentées que comme des demoiselles en détresse qu'il faut sauver, bah, quel impact ça va avoir sur notre société et sur ce qu'on veut montrer des femmes, sur qu'est-ce que c'est d'être une femme dans notre société d'aujourd'hui. Du coup, je pense que c'est une énorme responsabilité de justement d'avoir de la mixité dans les jeux et d'avoir des mixités aussi dans les personnes qui font les jeux, parce qu'en fait, forcément, si tu veux avoir une représentation qui
ça
est
se répercute après dans
réaliste,
le résultat, forcément.
Voilà.
Après, d'un point de vue créatif, c'est aussi important d'avoir des profils variés qui apportent des expériences et des visions différentes pour donner plus de richesse aussi au milieu culturel, lequel jeu vidéo, qui est plus récent mais qui est quand même assez puissant, parce que c'est le premier média culturel en France devant le cinéma quand même. Donc oui. Donc c'est important.
Mais d'ailleurs, on en parlait, enfin j'espère pas trop m'égarer du sujet, mais au niveau de la mixité, enfin de la diversité, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que j'en avais parlé avec Lola la dev du dimanche et Camille de la chaîne Osmosis, et on s'était dit, en fait, genre, ça s'applique même au-delà de ça à la représentation, en fait, que ce soit du genre, que ce soit, voilà, homme-femme, et que ce soit aussi de la couleur de peau, en fait. Que...
Ça, et aussi les personnes, malheureusement, handicapées.
Et les personnes, voilà,
En
situation de handicap. Et du coup, ça, c'est vrai qu'en fait, les jeux vidéo sont souvent faits par des hommes cis, blancs, jeunes, en bonne santé, minces, enfin, bref. Et du coup, bah, dans la représentation des jeux vidéo, c'est souvent ce qu'on voit, et c'est dommage, et je pense qu'il faut essayer de casser ça, même si les choses changent.
Oui, justement, on en a beaucoup parlé. Donc, on en avait parlé déjà dans notre podcast de 2018, les voix commençaient à s'élever, ensuite il y a eu le mouvement MeToo aussi qui a apporté beaucoup de débats dans le milieu aussi du jeu vidéo. Mais du coup, là, depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On va vraiment faire le point. Donc déjà au niveau des chiffres, le CNJV, le syndicat national du jeu vidéo, fait une étude, un baromètre du jeu vidéo tous les ans. Et cette année, on s'est rendu compte que, par exemple, dans l'industrie du jeu vidéo, les chiffres n'ont pas changé. On est toujours à 14% à peu près dans les studios. Mais par contre, dans les écoles, on voit un peu plus de femmes dans les écoles spécialisées du jeu vidéo. Donc on se dit, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir au moins pour la génération future qui est étudiante et qui va ensuite travailler dans le jeu vidéo ? Donc toi, Carla, tu sors d'études... récemment.
Deux ans de game design, du coup j'ai bien eu le temps d'observer ce qui se passait dans les écoles, d'autant plus que j'ai fait pas mal de portes ouvertes à l'époque où ma direction était différente, je croyais vraiment en l'école, du coup je m'investissais vraiment, je faisais beaucoup de portes ouvertes et du coup j'avais l'occasion de voir quel profil était attiré par mon école ou pas. Et c'était drôle parce qu'en fait, mon école a ouvert une section game art et une section creative coding, donc plus axée tech, une plus axée art. Et en fait, la moitié de la classe d'art, c'était des filles. Et dans la classe de tech, il y avait genre peut-être trois filles qui étaient inscrites. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait des filles qui approchaient, je leur parlais des deux et je leur disais bien qu'est-ce que vous préférez, etc. Et tout le temps, les filles, dès que je leur parlais de code, c'était « Ah non, pas de code !» Je fais « Mais pourquoi ? Pourquoi c'est terrible ?» Et elle me faisait « Ben non, mais j'ai déjà essayé de coder, j'ai déjà essayé d'avoir la logique maths, je suis pas forte en maths, je suis pas bonne en maths. » En fait, elle se mettait des cases, comme moi je m'en suis mis quand j'étais au collège, j'étais terrible en maths, parce que je me disais que j'étais terrible en maths. Du coup, c'est un cercle vicieux, et du coup, je les encourageais, je disais « Mais déjà, c'est pas parce que moi j'étais nulle en maths, et pourtant maintenant je code. » Donc tu peux clairement genre faire des trucs.
Mais ça, c'est une idée reçue qu'il faut être bon en maths pour être bon en code.
Ouais, c'est pas fin, hein. D'ailleurs, il y a eu des décortiquages vis-à-vis du sondage que tu as cité, la SNJV, qui du coup détaillait là-dessus que effectivement les femmes, elles se concentraient dans les milieux artistiques et que par rapport à la technique, le niveau était encore très très bas. Je crois que c'était en dessous de 10%.
Ouais, mais pour autant, il faut pas que les femmes qui fassent de l'artistique se sentent coupables du tout, parce qu'en fait, genre c'est ce qu'elles kiffent et c'est tant mieux. C'est juste que il faudrait plus que les écoles dirigent les femmes vers des choses mathématiques, parce qu'en fait, on a tous le même cerveau, on peut tous faire ça. Donc en fait, clairement, moi je leur disais ça aux filles, et parfois il y en a quelques-unes qui changeaient d'avis, qui acceptaient de faire les portes ouvertes dans la section creative coding, et je trouvais ça trop cool, parce qu'en fait, je sais qu'il y en a quelques-unes au final qui ont kiffé, qui sont inscrites dans le truc creative coding, donc je trouvais ça vraiment chouette qu'elles se fassent confiance, tout simplement, qu'elles se disent « bah ouais, je peux le faire, il n'y a pas de raison, etc. » Et moi je leur montrais « bah voilà, moi j'ai codé ça, tu peux le faire, il n'y a pas de raison, moi, à ton âge, j'avais le même niveau en maths. » Et je lui ai dit,
ce qu'il leur faudrait en fait, surtout, c'est des référents, des rôles modèles pour justement leur ouvrir la voie, parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a encore trop peu. Et donc, les adolescentes, les jeunes étudiantes ne savent pas qu'elles peuvent se diriger vers cette voie-là.
Ouais. Du coup, il y a des écoles qui prennent ce problème à bras-le-corps. Il y a par exemple l'exemple de l'école 42 qui est à Paris, donc l'école de codage. Qui a nommé une directrice, c'est l'année dernière, je crois, ou en début d'année, qui est Sophie Vigier, et qui a aussi ouvert un groupe interne qui se réunit toutes les deux semaines pour vraiment prendre les problèmes de discrimination ou de harcèlement, etc., dès qu'ils apparaissent, pour les détecter plus facilement. Et aussi s'adresser aux femmes dans leur communication. Dans les réunions d'information, par exemple, ils essayent d'atteindre la parité. Il y a aussi la piscine, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un concours assez intensif où on dort sur place, etc. Ils ont par exemple une salle réservée aux femmes. Et on se rend compte que ça se ressent dans les chiffres, puisqu'ils ont trois fois plus de participantes aux piscines qu'il y a plusieurs années. Donc, en vrai, si l'école prend ses responsabilités, ça peut vraiment changer.
Mais il y a quelques années, il y a eu quand même des graves cas de harcèlement dans l'école, etc. Et je sais que moi, par exemple, quand j'étais au lycée, donc c'était il y a 3 ans, c'était il y a si longtemps, je voulais aller à l'école 42, parce que ça m'intéressait, la programmation, etc. Et en fait, j'ai connu quelqu'un qui était prof en fac d'info et qui m'a dit « ben, n'y va pas parce que pour les filles, c'est chaud ». Et c'était il y a 3 ans, et du coup ça m'a genre totalement refroidi. J'avais passé le test sur internet, etc., mais ça m'a genre vraiment refroidi, et du coup je disais de pas y aller, juste parce que voilà, j'avais entendu des histoires comme ça. Au final, je regrette pas, parce que voilà, mon parcours m'a amené là.
Je connais quelqu'un qui est dans l'équipe pédagogique, et c'est vraiment récemment en fait qu'ils ont essayé de prendre le problème et de résoudre le problème.
C'est clairement super cool. J'espère que du coup des lycéennes qui ont mon âge maintenant oseront y aller, clairement c'est chouette.
Et du coup, après, on a eu les chiffres dans la vie professionnelle. Donc, on a vu que dans l'industrie, ça n'avançait pas. Mais il y a quand même eu des éveils de conscience en France, mais aussi à l'international, puisqu'on a eu l'affaire Riot Games qui a éclaté l'été 2018, ça fait déjà plus d'un an, en fait. Donc, où Cécilia D'Anastasio de Kotaku, qui est pigiste pour ce média, a mis en lumière une ambiance sexiste et très toxique pour les femmes, notamment. Une espèce de broculture systématique chez Riot Games. Et le jugement a été rendu en décembre dernier. Ils ont été condamnés à plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts, sauf que l'action a été relancée, etc. Donc ça, ça a relancé aussi beaucoup de débats sur le sexisme dans les environnements de travail. Et on voit de plus en plus d'entreprises qui essayent d'avoir un comité de diversité, nommer des personnes et essayer d'avoir un groupe interne pour détecter les problèmes plus rapidement. Mais il y a quand même encore du travail à faire. Vous, c'est quoi votre expérience, du coup, par rapport à ça?
Peut-être... Je parle en premier. Alors... alors du coup, moi j'ai eu des expériences assez variées, on va dire, dans le jeu vidéo et même dans mon école, c'était plutôt cool l'ambiance. Il y avait quand même pas mal de femmes. Faut savoir que c'était, j'étais plutôt dans une section cinéma d'animation avec un peu de jeux vidéo. Du coup, la mixité était quand même, il y avait quand même pas mal de meufs. Et par contre, il y a eu des cas de harcèlement, donc c'était l'école Bellecour. Mais je sais pas trop où... Enfin, c'était pas forcément du harcèlement, c'était pas forcément quelque chose de très grave. Je sais juste qu'il y a eu des histoires. Il y a des couples qui se sont formés aussi entre profs et élèves, qui sont encore aujourd'hui toujours ensemble.
Licenciement.
Il y a des choses un peu floues. On sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a pas eu de cas vraiment grave. Ça, j'en suis certaine. Ou en tout cas, personne n'en a parlé. Et je sais aussi que ça a énormément changé aujourd'hui, donc tout ce que je vais pouvoir dire de toute façon n'est plus forcément accurate. Aujourd'hui, il reste plus qu'un seul prof de.
C'est dans les anglicismes de Boston, là, c'est ça.
Oh, genre de parler direct dans la tête, là. Oh là là. Si vous voulez, we can switch to English if you want. It's not a problem.
Flex.
Je vais me faire taper dessus. Mais et du coup aujourd'hui, toute l'équipe pédagogique a changé, mais globalement, c'est quand même une bonne expérience. Et par contre, j'ai eu des expériences par la suite dans mon travail où je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que j'éteigne un peu la femme qui était en moi. Parce que, disons que j'ai toujours été un peu une féministe, en plus végétarienne, engagée, on va dire.
Les cheveux roses, tout ça.
Voilà. Et disons que dans le milieu du travail, on m'a vite fait comprendre que j'allais passer pour une grosse relou. Surtout si j'avais les deux, quoi. C'était un bon package. Et soit je me faisais des ennemis et en gros je mangeais toute seule à midi, soit je rigolais aux blagues sexistes de mes collègues et ça passait beaucoup mieux.
Mais tu mangeais végétarien toute seule à midi.
Ouais. Donc, et je me suis rendu compte que dans deux des trois boîtes dans lesquelles j'ai bossé, enfin je compte pas les stages, en fait c'était beaucoup comme ça, ce que tu disais, le broculture. Que ça se passait,
c'est-à-dire qu'on te met à part, mais il y a pas de violence, mais en soi c'est ça reste,
tu le ressens, il y a une barrière qui
sous-jacent
s'est formée,
tout le temps, quoi.
Mais du coup t'as fait quel choix?
J'ai fait quel choix? À ce moment-là j'ai fait le choix de m'intégrer. Et je restais féministe et de toute façon je sais que, enfin, ça parlait dans mon dos de je sais que il y a un truc qui m'a énormément énervé, c'est l'écriture inclusive. Et à un moment ils en discutaient et ils donnaient un petit peu, ils parlaient de moi toi tu vas savoir, toi t'es une femme, mais toi
en fait, t'as rien à dire parce que déjà t'es féministe, donc t'es relou, alors
T'es relou et donc toi tu vas encore avoir ton mot à dire là-dessus. Et puis du coup moi j'essaye d'expliquer, mais ça
amplifie le truc, ça problème que un truc point de vue,
que des exemples comme ça de je peux même pas expliquer les choses de façon sereine parce que de base en fait ils s'en fichent et ils sont pas concernés et ils veulent pas s'intéresser, ils veulent juste se moquer en fait.
Du coup,
je trouve ça super dommage.
Dans les endroits où t'étais la seule femme ou il y en avait d'autres aussi?
Il y en avait d'autres, mais qui avaient déjà, c'était quand même une minorité et qui avaient souvent le même comportement en fait, la guerre, on fait comme on peut pour survivre.
Des bros, quoi.
Ouais, et tu devenais un bro en fait. Et ce qui est cool, c'est que dans la boîte où je suis actuellement, vraiment, J'adore cette boîte et je suis tellement contente de pouvoir y être entrée et je suis pas payée pour dire ça.
Mais vendu.
Vendu. Mais vraiment, genre, il y a une super ambiance et notre boss, il est vraiment cool par rapport à ça et faire en sorte, notre boss et notre producteur, vraiment faire en sorte que ça se passe bien et que si jamais il y a le moins de problèmes, je sais que Carla, quand elle est arrivée, genre, c'était vraiment, même moi, il m'a demandé, genre, est-ce que t'es sûre que ça se passe bien, qu'elle est bien intégrée?
Et puis c'était là. On avait commencé par un séminaire. Du coup, en fait, j'ai rencontré directement les. En fait, c'est trop drôle parce qu'on travaille tous en télétravail. Et du coup, j'ai rencontré les gens directement avant de bosser avec eux. Du coup, c'était cool de pouvoir poser des visages sur les noms et tout. Oui. Mais du coup, en fait, c'est. D'ailleurs, dans notre entreprise, c'est super parce qu'en fait, si on a un problème avec notre boss, on peut s'adresser à notre producteur qui est syndiqué au STJV. Donc, en fait, genre, c'est la totale, clairement. En fait, donc, dans tous les cas, on a un filet, enfin, si vraiment on a un problème. Et au séminaire, on faisait des entretiens, on disait, ah ben voilà, s'il y a un truc qui va pas, on le disait. Voilà, par exemple, ben, lui, il a fait une blague, machin, ou alors je me suis pas sentie à ma place, ou alors il y a ça qui m'a.
C'est génial parce qu'il vous pousse vraiment à dire tout ce qui va pas et il maintient une communication.
Même quand on n'a pas forcément genre, envie de parler, il pose des bonnes questions et je trouvais ça, enfin, franchement, il. L'art et la manière, quoi, clairement.
Par contre, je pense que ça convient pas à tout le monde. Je sais qu'on a un humour un peu graveleux.
Ouais, non, mais en vrai, non, ça passe.
C'est très bien que ce soit toi qui sois dans l'équipe.
Parce que je calme le jeu un peu.
Ah, j'aurais dit que tu t'intègres bien, mais...
Ah ouais, bon, ok, d'accord.
Je vais pas m'annoncer. Non, voilà, je vais m'arrêter là.
Et on va pas demander d'exemple pour ne pas passer Peggy 18. Et toi, Anya, du coup, vu que t'es cofondatrice, j'imagine que tu dois aussi aller voir des interlocuteurs pour leur parler de tes studios. Est-ce que t'as pas des fois des problèmes de crédibilité, de remise en question de ta légitimité ou...
Je l'ai pas ressenti plus que ça. Et à vrai dire, moi, j'ai un passé assez différent de vous deux. Moi, j'ai pas mal travaillé en tant que freelance. Donc, pour le coup, moi, j'ai jamais ressenti de discrimination ou autre parce qu'à chaque fois, je venais directement des marchés. Et voilà, on est à communiquer par mail, voilà, à distance. Là-dessus, j'ai rien à dire. Par contre, c'est vrai que dans l'expérience professionnelle que j'ai actuellement, quand je vais voir du coup des éditeurs, la crédibilité, il faut la montrer. Alors que je sais que si c'est mon associé qui y va, eh bien malheureusement, lui, il n'a rien à argumenter. Voilà, sa parole fait loi.
De devoir faire deux fois plus pour
j'ai l'impression de devoir quand même à chaque fois m'expliquer, devoir argumenter plus que lui.
Mais ça, du coup, ça montre un peu une culture qui reste dans le jeu vidéo ancrée. Et c'est peut-être dans l'éducation aussi qu'il faut peut-être faire changer les choses.
C'est sûrement plus large, ouais, parce que jeu vidéo, c'est une petite partie de toute la société. Et je pense qu'en fait, une fois que les mentalités auront changé dans la société, il n'y aura plus à faire ça. Mais en fait, des témoignages de femmes qui sont à des hauts postes et qui ont besoin de plus se justifier que les mecs, enfin, il y en a des tonnes, en fait, du coup...
Bah déjà, s'il y avait plus de femmes, déjà, il y en a de plus en plus, mais plus il y aura de femmes à des postes à haute responsabilité, voilà, j'ai perdu toute ma crédibilité, plus il y aura de femmes à des postes à haute responsabilité, plus, en fait, on accordera de crédit, voilà, ça rentrera, je pense, dans les...
C'est toujours un cercle qui s'entretient, de toute façon, soit c'est un cercle négatif, mais dès que les choses commencent à changer, on essaye d'entrer dans un cercle positif, mais... C'est quelque chose qui s'entretient, le fait qu'il y ait peu de femmes dans le jeu vidéo, c'est aussi parce qu'il y a une absence de modèle, genre de profil ultra inspirant, mais du coup ça s'entretient quoi. Aussi. Mm. Mais il y a aussi la question de la représentation des femmes dans le jeu vidéo, forcément. Donc ça c'est une question qu'on aborde, qui a été abordée il y a assez longtemps et qui continue à être mise sur le tapis. Et là en témoignent nos figurines sur la table, on voit que ça a changé récemment. Avec les exemples de Lara Croft, d'Horizon Zero Dawn, etc. Donc, il manque plus que toi, Clara.
Moi, du coup, dans mon école, en fait, il y a eu du harcèlement. Enfin, clairement, il y a eu du harcèlement, notamment sur notre... On a un serveur Discord sur notre école. Et y a des gens qui faisaient des blagues sur le viol, des choses comme ça. C'est là que la direction est intervenue parce que du coup elle a vu ce qui se passait parce qu'en fait il y a une élève qui a dit arrêtez, ça me fait pas rire machin.
Normal,
et voilà, clairement moi je regardais jamais le Discord donc j'avais pas tout capté et c'est elle qui a dit moi ça me fait pas rire, arrêtez, et eux ils ont continué et la direction le lendemain, alors là ils ont pris conscience du problème parce que c'était écrit. Elle est venue le lendemain dire juste vous arrêtez machin et tout, donc c'est cool parce qu'ils ont clairement dit, ben, si vous continuez, vous serez viré. Mais en fait, le problème de sexisme et en fait de harcèlement, etc., c'était déjà bien avant dans la classe. Et c'est seulement quand la direction est venue que j'ai osé lever la main et dire, ben, en fait, tous les jours, c'est des blagues. Tous les jours, c'est, il y a une personne qui fait une blague, mais vu que tous les mecs font une blague, et ben, genre, c'est super chiant. Et il y a un mec qui a dit, ouais, mais t'as pas d'humour. Le fameux t'as pas d'humour. Et franchement, la fille, enfin, la deuxième fille dans ma classe et moi, on s'est regardé, on a fait, non, mais, le jour où tu te prendras 30 blagues dans la gueule qui sont en plus pas vraiment drôles, en fait, genre, c'est souvent, ben, moi, par exemple, j'allais à la cuisine, ranger mon Tupperware, genre, le laver, et genre, je suis revenue, on a fait, tu devrais y rester, c'est ta place, enfin, c'est même pas drôle, c'est nul, ouais, quoi.
Mais du coup, dans ce cas-là, il faut pas s'auto-censurer et vraiment comprendre que c'est un problème et qu'il faut le reporter directement à la direction, quoi.
Ouais, mais en fait.
Et comment est-ce que ça pourrait être plus facilement détecté, quoi?
Bah, moi, clairement, en fait, le truc, c'est que sur le coup, bah, j'ai rigolé parce que voilà, je savais pas trop quoi dire, j'ai rigolé, et plus les vagues arrivaient, plus je rigolais parce que j'étais seule face à ça, il y avait tous les autres qui rigolaient. Et en fait, je pense pas que les gars de ma classe étaient forcément genre sexistes ou quoi. Je pense qu'il y en avait deux, trois qui étaient vraiment genre hardcore, mais les autres non. Mais c'est sûr, c'est un embrigadement. En fait.
C'est l'effet mouton aussi.
C'est un embrigadement, ouais. C'est drôle et on s'en aperçoit pas. Et je pense qu'eux, ils s'en sont jamais aperçus parce qu'ils ont jamais reçu 30 blagues pendant la journée où on te rappelait que t'étais une femme et que tu sais faire la cuisine et c'est tout, tu vois. Donc au final, je pense que clairement peut-être que j'aurais dû parler avant, c'est sûr, mais c'est pas facile. Heureusement, la direction, elle a vu quand c'était sur le Discord, elle a agi parce que ça aurait pu être clairement pire. Mais il faudrait aussi que genre ils se rendent compte d'eux-mêmes que une blague plus une blague plus une blague, genre vraiment c'est lourd, quoi.
J'en ai même qui puissent te défendre, quoi, au lieu de suivre le mouvement.
Ouais, bah mon ex de l'époque qui était dans ma classe, il m'a défendu, mais voilà, un contre je sais pas combien. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Et quand, plus dans notre classe, on était 30 et quelques, il y avait une majorité de garçons. C'est-à-dire, on était, je sais pas, peut-être 8, 9 filles, un truc comme ça. Sachant qu'il y a un groupe de filles qui restaient entre elles. Donc, c'était pas forcément concerné. On était 3, 4 filles à vraiment parler avec souvent les garçons. Et bah voilà, il y en a que ça gênait pas. Moi et d'autres filles, ça nous gênait clairement, ce genre de blague. Parce que,
du coup, tu étais étudiante en game design, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et là, vous étiez vraiment minoritaire, quoi.
En fait, le truc, c'est qu'à cette époque, la section n'était pas séparée. Donc, ça rassemblait tous les gens qui voulaient faire du code et du game art. Du coup, en fait, il y avait une majorité de garçons, une large majorité. Du coup, c'est clair que, en fait, moi, quand j'étais au lycée, on m'a dit « Ah, t'es sûr que tu veux faire du game design ?» Parce que c'est un truc de mec. Et j'étais là « Eh, s'il vous plaît, les gars, on est en 2018. Franchement, je vous trouve un peu, quand même arriéré, quoi. » Et ben, je savais pas ce qui m'attendait. Donc, c'est clair que maintenant, au moins, c'est ce... On en parlait avec Fanny la dernière fois sur le fait que Goblins, il recherchait une femme pour de QA testing. Et j'étais là, ouais, mais est-ce que je suis là parce que je suis une femme ou pour mes compétences? Et elle m'a dit, mais en fait, le fait que tu sois là, déjà, ça veut dire que t'as une force de caractère du fait que t'es passé l'école et que t'es passé tout ce discrimination.
Mais souvent, ce que les gens ignorent quand ils connaissent pas forcément le fond du problème, ils pensent que les femmes sont avantagées juste parce qu'elles sont moins nombreuses, alors qu'elles
sont moins nombreuses.
Mais sans se rendre compte qu'il y a aussi des obstacles avant qu'elles ont dû surmener pour arriver à
la relation. Et puis, elle m'a rassurée en me disant que de base, s'il y avait pas les compétences, je serais pas là. Sinon, ils auraient pas pris une meuf random dans la rue.
En fait. Genre, moi, la discrimination positive dans le jeu vidéo, pour moi, c'en est pas, parce qu'en fait, déjà de base, les femmes sont discriminées. Donc en fait, si tu les avantages au moment de l'embauche, finalement, ça devient un équilibre. Et puis de toute façon, le truc de t'as été embauchée parce que t'es une femme et en fait t'es pas compétente, c'est impossible. Dans le jeu vidéo, c'est un milieu tellement compétitif, il faut être au niveau, quoi. Il y a personne qui est, enfin, c'est, il y a tellement de, comme tu disais, peu d'appelés pour
beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Donc de toute façon, si on t'embauche et que t'es pas bon, ça va être vite vu.
Ça existe
si
pas d'embaucher quelqu'un qui est pas compétent.
Pas légitime, ça va être compliqué.
Mais alors,
se met encore nous-mêmes des freins.
Ouais, mais c'est récurrent, en fait, le truc, c'est que c'est facile de pas se sentir légitime, quoi. Mais bon.
Après, c'est vrai que moi, j'ai du mal quand on me dit, par exemple, on va m'engager, on va me dire, et en plus, t'es une femme, c'est bien.
Ouais, c'est ça.
Tu te poses la question quand
même.
Je
trouve ça cool que ce soit mis en valeur, parce que, on en parlait justement, que, en fait, des fois, dans des équipes, Tu disais qu'ils t'avaient pas choisi pour un atelier ou je sais plus parce que t'étais une femme et que les mecs disaient ah non ça va les distraire.
Ah ouais, c'était pendant ben
en fait on avait
un travaux de groupe à faire et il y avait ben voilà un groupe de mecs qui voulaient aucune meuf parce que ça fout la merde. Alors je suis là bon bah écoute si tu sais pas tenir tes hormones c'est un peu triste pour toi parce que tu as des difficultés dans la vie quoi parce que si tu veux pas travailler avec des filles dans des studios ça va être plus compliqué parce que tu vas pas dire à ton boss bah j'ai pas envie de travailler avec une fille.
D'ailleurs Anna t'as fait plusieurs game jams. Donc les game jams, c'est des événements où tu dois faire un jeu vidéo en 24 ou 48 heures. C'est hyper formateur et c'est une étape importante dans le cursus étudiant. Mmh. Et il y a souvent très peu de femmes, donc j'aimerais savoir si toi aussi tu as eu l'expérience. Est-ce que tu as eu une bonne expérience en général des game jams ?
Alors les game jams, oui. Alors donc effectivement, c'est créer un jeu en un minimum de temps. De mon expérience, toujours très bonne. Vraiment. Après, je me suis surtout orientée vers des game jams qui avaient déjà un espace un peu self-care. Donc je sais pas, par exemple, sur Paris, RJV, donc le Rassemblement Inclusif du Jeu Vidéo. Je sais qu'eux, ils mettent un point d'honneur, ils nous font même signer une charte, ou en tout cas, ils nous en font prendre connaissance, que voilà, il y a des règles de bonne conduite à suivre, et qu'ils cherchent aussi de la mixité, et à intégrer les personnes LGBTQ.
C'est cool.
Oui.
Oui, moi, je connaissais quasiment que la Global Game Jam, mais j'ai plutôt
aussi.
Une bonne expérience.
C'est la plus importante.
La plus... Peut-être pas la plus importante. Alors, en France, oui, bien sûr. Mais après, il y a aussi tout ce qui est Ludum Dare. Et ça aussi, c'est quand même pas mal. Mais c'est à distance. Alors que la globale, c'est principalement à Exart. Bon, on peut faire un peu partout.
C'est une école partout dans le monde qui la
font. Et pour m'y être rendue plusieurs fois, la parité là-bas est quand même assez énorme. Hein. Je trouve que là, ça a pas mal augmenté au fur et à mesure des années. J'en vois de plus en plus. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que là... Bah, y a pas de barrière et que justement l'école pousse les élèves à s'investir et à y aller.
Et pareil, c'est aussi faire naître des ambitions, donc c'est vraiment une porte d'entrée hyper importante dans le jeu vidéo. Et on voit justement des organisateurs comme Arte qui essayent de faire des game jams un peu plus inclusives. Par exemple, Arte fait une présélection, parce que ce sera gratuit mais limité à 60 places, je crois. Et ils feront une présélection pour que ça soit le plus paritaire possible, pour qu'il y ait du coup plus de femmes.
Yes. Oui. Ils mettent l'accent sur la mixité et donc. Là, ils forcent un petit peu d'ailleurs la mixité, mais genrée, donc homme-femme, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'au final, on voit qu'ils ont été très très sollicités, et que voilà, les gens ont été au rendez-vous.
Vous en avez fait aussi du coup pendant votre parcours ?
J'allais dire, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que du coup, moi j'ai fait pas mal de Global Game Jam, Game Dev Party aussi, qui était à Lyon, et j'étais quasiment à chaque fois la seule nana, mais... L'ambiance était vraiment bonne. Après, c'était avec la plupart de mes potes, en fait, d'école. Donc, de base, en fait, je savais que c'était des gars sûrs.
Tu n'allais pas seule et où tu aurais dû t'intégrer directement.
Ouais, je crois que j'ai fait aucune game jam où j'y allais toute seule. Donc, je savais que j'avais toujours au moins 2-3 potes avec qui je savais que j'allais me mettre en team. D'ailleurs, ça, c'est pas du jeu. Normalement, on arrive à une game jam.
T'es censé arriver seul. Mais bon, c'est pas grave, ça se passe. En fait, tu peux être timide et c'est normal, ça arrive. Enfin, t'es
ou savoir que tu te mets avec la team des meilleurs et que tu as fait un super jeu.
Mais
aucun risque.
Moi, j'en ai fait pas mal, du coup, pendant mes études. Et même là, je continue à en faire pour entretenir le feu, quoi. Et du coup, j'ai fait des global game jam. J'ai fait une scientifique game jam à Toulouse, qui était très cool. D'ailleurs, on travaillait, du coup, avec des doctorants. Et on devait faire un jeu sur leur thèse. Du coup, c'est trop cool. Et j'ai fait une game jam aussi, où on travaillait avec des professeurs des écoles, etc. Donc, en fait, pas mal de trucs variés. La Perpignan game jam aussi, pour essayer dans le sud. Du coup, en fait, il y avait toujours une super ambiance. Les gens étaient vraiment très cool. Pas beaucoup de filles, par contre. Même pour le rôle art, etc., il y avait pas beaucoup de filles. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Alors, en fait, à Toulouse, ça se passe sur le campus d'Epitech. Donc, il y a beaucoup de gars d'Epitech. Ils sont un peu lourds parfois, pas tous, mais j'ai connu quelques gars qui étaient un peu lourds, qui voilà venaient me voir pour que waouh je fasse leur site. Ah mais je suis pas du tout graphiste de site. Oui mais c'est toi qu'on veut. C'est bizarre parce qu'il y a un mec là-bas, il sait très bien le faire, tu vois. Enfin voilà ce genre de truc. Bon ils sont pas méchants, mais c'est juste un peu lourd parfois tout le temps.
Epitech a aussi très peu de femmes, je crois, dans ses formations.
Ouais, exactement.
Qui sont aussi confrontées.
J'ai beaucoup d'amis là-bas et ils me disent les femmes. Enfin c'est un cercle vicieux. Il y a pas de femmes, du coup dès qu'il y a une femme, c'est le centre d'attention et
Voilà, justement, à la Paris Games Week, du coup, on a un stand WIG chaque année, Women in Games France, et on a souvent des parents qui viennent nous voir en disant « Je sais pas quoi faire, ma fille veut faire des jeux vidéo, mais j'ai peur, en fait. » et eux ont peur, les découragent limite parce qu'eux ont peur qu'elles aient des obstacles, ils soient discriminées, en fait, plus tard. Donc ça entretient encore plus le truc. En plus, on se traîne encore le cliché du nerd enfermé dans sa chambre qui date de 10 ans. Bon, c'est de moins en moins le cas, mais c'est
mais ça montre aussi une prise de conscience parce qu'il y a quelques années, et moi je le sais que pourtant ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le milieu, que le monde du jeu vidéo c'était encore très décrié parce que ce que tu fais ça peut se faire en 2 minutes, hein.
C'est l'ordinateur pour un clic.
C'est de la passion, quoi. Franchement,
pourquoi tu veux être payé, enfin.
La visibilité du jeu vidéo en général dans la société, c'est encore compliqué parce qu'on est toujours moins médiatisé. Par exemple, du coup, je prends encore le cinéma en exemple, mais c'est beaucoup plus légitimé aux yeux de l'État que le jeu vidéo, surtout que l'addiction au jeu vidéo est passée comme vraie maladie à l'OMS. Enfin, ça améliore pas les choses, quoi.
Pour rebondir sur Epitech, du coup, moi, dans mon projet de master, on avait bossé avec des gens d'Epitech, des programmeurs. Et du coup, en fait, on s'était répartis les teams. Enfin, je me souviens, dans la classe de programmeurs, c'était la dernière année, et il restait une nana. Et genre, j'ai tout fait pour l'avoir. J'ai réussi à l'avoir. Yes. Mais c'est vrai que je lui en parlais et elle me disait, mais moi, je suis un fantôme. Je suis devenue invisible parce que c'est ma seule solution pour survivre. Il y a la solution, tu fais partie des bros. Puis il y a la solution, tu t'écrases. Tu n'es plus une femme, tu n'es plus rien. Tu es là, mais tu n'es pas là.
Le pire, c'est quand je parlais avec mes potes d'Epitech, en fait, bon, ils désapprouvent ça. Hein, sinon, ce serait pas trop mes potes. Ils agissaient comme ça, quoi. Et du coup, genre, ils étaient en mode, non, mais. Ils m'expliquaient leur point de vue. Ils me disaient, il y a des filles, mais elles prennent pas soin d'elles. C'est des garçons, elles portent des sweats. Et du coup, quand ils voient une fille qui comme ils disent, qui ressemble à une fille, alors c'est nul, mais en gros,
on a toujours ces mêmes, tu sais, du cliché de la gameuse qui est censée
qui est censée être jolie, qui joue aux jeux vidéo, qui s'épile, qui a le temps pour monter grand master sur Overwatch ou encore plus, mais et en fait, non, genre, on n'a pas tout le temps et parfois, on est moche. Puis aussi,
parfois, on a le droit aussi. On n'a pas forcément envie de faire tout ça non plus.
Ouais, c'est ça. Et du coup, il me disait, non, mais voilà, quand il y a une jolie fille ou une fille qui prend soin d'elle, du coup, tous les mecs qui sont devant, je me dis, non, mais c'est pas une raison, enfin. Genre, c'est pas une raison pour empêcher quoi que ce soit. Enfin, voilà.
Ça rejoint un peu le côté de la représentation des femmes dans le jeu vidéo. Donc, ça me sert de transition pour le prochain sujet.
Donc, bien joué.
On a aussi eu un problème de peu de femmes représentées dans le jeu vidéo. Alors, c'était justement Peach, le cliché Peach de Mario qu'il faut sauver, qui est très féminine, over féminine même. Et on commence enfin à avoir des représentations plus variées de femmes et plus de femmes protagonistes principales dans le jeu vidéo, par exemple, du coup, Horizon Zero Dawn, la nouvelle Lara Croft des nouveaux Tomb Raider. Mais on se rend compte que même si ces avancées sont très médiatisées, il y a quand même peu d'évolution dans les chiffres. Et il y a par exemple Feminist Frequency, qui est lancée par Anita Sarkeesian, qui a fait une étude des chiffres de l'E3 de l'année dernière. Et on s'est rendu compte que le nombre de femmes dans les jeux vidéo était environ 4 fois moins élevé que le nombre d'hommes dans les jeux vidéo en personnages principaux. Donc c'était encore, il y a une disparité encore assez importante, surtout qu'on ne sait pas comment ces héroïnes sont représentées, si elles sont bien représentées ou représentées de façon stéréotypée. Donc il y a encore ces problèmes. Mais on a eu quelques jeux, par exemple Wolfenstein qu'on voit ici, qui avait des protagonistes femmes. Et du coup, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir plus d'espoir pour l'E3 de l'année prochaine, enfin de cette année du coup maintenant, en termes de représentativité de femmes, ou est-ce que vous pensez que ça va toujours pas évoluer à ce niveau-là?
J'ose espérer que s'ils intègrent des femmes, les jeux seront plus achetés, du coup ils vont en mettre, enfin c'est une logique marketing assez simple. Donc en fait la seule chose qu'on peut faire, c'est acheter des jeux où il y a des femmes pour qu'ils ressentent le fait en mode « Ah, on met une femme, ça fait du chiffre, on va le faire ».
C'est vrai que là, jusqu'à présent, le principal frein, en tout cas réponse qui sortait, c'était « Oui, mais il y a un risque commercial ». Parce que justement, les femmes, ça se vendra moins bien.
Parce qu'il y a moins de joueuses, etc.
Voilà. Donc soutenons. Soutenons, s'il vous plaît.
Sachant que chaque année, l'étude du SNJV montre qu'il y a un joueur sur deux qui est une femme, donc la cible est là, en fait. Donc il n'y a pas de raison que les jeux vidéo avec une héroïne féminine vendraient moins que l'inverse.
Surtout que moi, je sais, j'ai essayé de jouer à des jeux où le héros est un homme. Et j'ai du mal à m'identifier, donc bon, je conçois aussi que pour les hommes ce soit difficile.
C'est pour ça qu'en général, le mieux c'est avoir un choix. Mais
avoir un choix, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que du coup, les jeux où je peux jouer une femme, bah, ça me donne envie de jouer au jeu. Du coup, le fait d'avoir des héroïnes, ça peut-être donnera aussi envie aux femmes de jouer davantage. Donc ouais, c'est un cercle vertueux, je pense.
On a toutes été inspirées par des femmes, des personnages féminins des jeux vidéo quand on était jeunes, j'imagine, qui nous ont donné envie de jouer plus ou de plus.
Bah, ils jouent un rôle crucial dans la représentation, dans notre création identitaire quand nous sommes adolescents. Et c'est vrai que ça nous guide jusque dans notre vie adulte. Donc oui, ça a un rôle très important et déterminant. Et il en faut plus, parce que l'heure actuelle, c'est vrai qu'on n'en a pas assez. Pour l'instant, il y a un petit effet un peu greenwashing. Donc les AAA s'y mettent, les studios indés s'y mettent aussi. Mais il y a encore beaucoup de boulot à faire.
Donc on a vu pour le 3 prochain, on aura peut-être plus de contenu, par exemple, sur Hellblade 2. Donc ça fera déjà une héroïne assez forte.
Super badass. Hein.
Oui. Surtout quand on voit le trailer du 2 qui était encore plus badass que le jeu précédent. On avait aussi le prochain Zelda Breath of the Wild qui, bon, il y a des rumeurs comme quoi on pourrait peut-être avoir un peu plus de contenu à l'E3 et peut-être on pourrait jouer Zelda elle-même.
Déjà, elle avait les cheveux courts et c'était trop beau.
Oui.
J'ai pas vu ça.
Oh, elle a une nouvelle coupe de cheveux.
Ouais. Ah ouais, elle a une nouvelle coupe de cheveux.
Personnage féminin, cheveux courts.
Imagine la révolution après tous ces jeux où tu ne fais que jouer Link.
Ça serait fou.
Mais Zelda, c'était quand même un personnage qui a plus de 20 ans, il me semble, et qui, malgré tout, faisait preuve un peu de féminisme à son époque. La journée, elle est princesse, et la nuit, elle est sheik. Ninja, voilà, hein. On a beau dire, mais il y avait quelque chose.
Et du coup, est-ce que vous attendez un jeu avec une protagoniste féminine, peut-être dans cette année ou l'année à venir, ou pas du tout?
Moi, il y a le nouveau jeu de Dontnod dont j'ai mangé le nom, où il y a un personnage qui est transgenre. C'est oui, ça vous dit rien?
Non, zut. Désolée.
Et ce jeu-là, dont je n'ai pas le nom, m'intéresse énormément. Je trouve ça vraiment cool qu'il commence à avoir... Tell me why. Trop fort.
Poufie l'encyclopédie.
GG. Et du coup, ouais, ce jeu me hype vraiment. Je sais pas du tout quand il sort. Je suis pas très calée sur les dates de sortie, mais je trouve ça tellement audacieux de dire on va même au-delà d'avoir une héroïne féminine, on met un héros transgenre.
C'est intéressant de voir le cas Dontnod aussi, qui met en avant vraiment la diversité dans ces jeux, et on voit que ça paye, puisque Life is Strange, par exemple, a été un succès commercial et critique incroyable.
Alors que c'est deux héroïnes.
Oui, en plus.
C'est juste que le jeu est super bien, en fait. Donc, que ce soit un mec ou une fille, au final, si le jeu est super bien, les gens vont aimer, quoi.
Oui, probablement.
Et vous, du coup, un jeu que vous attendez prochainement?
Animal Crossing, mais du coup, c'est des animaux.
Oui, il y a Marie quand même. Marie, c'est la
Marie.
Star, Marie, quand même.
Oui. Enfin, c'est quand même un jeu où il n'y a pas de combat, si je dis pas de bêtises.
C'est vrai.
J'y joue pas, mais.
C'est vraiment un combat de peine, ouais, pas de combat. Je sais pas, ou d'emote, mais.
Il n'y a pas d'ennemis, c'est quand même un jeu extrêmement bienveillant.
Tu peux frapper les gens avec un filet, je le faisais tout le temps.
Ah oui, c'est vrai.
Et après, ils sont là, ils se retournent, ils font faux. Mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est trop drôle.
On va voir si ça peut se faire dans le prochain Animal Crossing, une mécanique très importante.
Une bataille de filet et de canne à pêche. S'il vous plaît, Nintendo, si vous m'entendez.
Du coup, oui, Animal Crossing, évidemment, j'attends avec impatience aussi.
Moi, j'attends avec impatience des jeux de combat où il n'y a pas...
De la violence, du sang. Mais...
Parce que, bon, les jeux de combat, les filles, généralement, elles sont représentées... Alors, c'est dans les personnages, alors les mecs sont aussi stéréotypés, donc les filles aussi. Mais ce serait trop cool d'avoir un jeu de combat où il n'y a pas genre d'over-muscles ou d'over-seins, mais genre juste des persos de la réalité. Ce serait trop stylé. Moi, j'aimerais trop jouer avec ça.
J'allais parler du cas Overwatch. Parce qu'ils essayent quand même, tu vois, de sortir un peu des clichés. J'essaie. Mais c'est vrai que malgré tout,
Bon,
c'est actif, ils essayent.
Moi, je suis toujours un peu... sur le fil du rasoir, ça tombe bien parce que je suis en face de Mirror's Edge. Mais concernant Overwatch, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui critiquent Overwatch et qui disent genre tous les personnages féminins sont tous minces et sont toutes sur le même standard, alors que les personnages masculins sont très différents.
Elle est un peu en bon point.
Alors que... des risques, mais il y a aussi des critiques parce qu'elle garde quand même sa taille de guêpe et tout, même si elle est un peu.
Mais après, c'est le stylisé, c'est le style Overwatch.
Mais moi, je trouve que vraiment, par rapport à plein d'autres jeux où ils s'en foutent clairement, là, vraiment, ils essayent. Et on a quand même Zarya qui est un personnage hyper costaud, on a quand même en effet Mei qui est un petit peu ronde.
Il y a Brigitte aussi qui
est... Il y a Brigitte aussi qui est quand même costaud.
Qui est musclée en tout cas.
Et moi je trouve ça vraiment intéressant que pour un jeu qui soit autant... En plus c'est un gros triple A, un gros enjeu, qu'ils essayent...
Je tire
et qu'ils essayent de quand même mettre des personnages variés.
Ils vont intégrer des personnages, enfin Soldier 76...
Soldier qui est lesbienne, Tracer qui est lesbienne, moi je trouve ça vraiment cool.
Mais alors le seul souci moi que j'ai eu avec Overwatch, c'est la sortie de Sigma et c'est, là on sort un peu du sujet, mais c'est une stigmatisation des personnages avec des problèmes mentaux.
T'as raté un jeu de mots, je crois.
De quoi ?
Sigma, stigmatisation.
Ouais, c'est ça, stigmatisation.
Pas mal.
Non, mais voilà, ils ont quand même... C'est un peu la stigmatisation de personnes,
d'affolie,
etc. Enfin, clairement, le représenter avec une semi-camisole de force, avec des pieds nus, comme dans les...
C'était un énorme buzz
sur Twitter.
C'est très littéral, oui.
Mais je veux dire, tu peux être, avoir des maladies mentales sans être fou et balancer des boules. Comme ça,
après, du coup, on voit que les personnages sont très diversifiés sur Overwatch. C'est vrai qu'ils ont vraiment mis, l'accent là-dessus. Et donc moi je suis plutôt du milieu de l'e-sport, donc c'est un jeu compétitif assez important, et tout le monde me dit tout le temps, il y a que des meufs sur Overwatch, je vois que des femmes dessus, qu'est-ce qui se passe? La réponse est là en fait.
Des joueuses, tu veux dire?
Oui, par rapport aux autres scènes e-sportives. Bon, là on est encore...
Ah oui, d'accord.
C'est très bas, mais à petit niveau, même niveau amateur, il y a quand même pas mal de femmes. Et on voit du coup que ça paye d'avoir cette stratégie-là.
Voilà. C'est vrai que si on compare à League of Legends, les personnages féminins... Des jolis cosplays.
Et donc moi je suis fan de League of Legends, mais au bout de 10 ans de jeu, on est encore dans ces stéréotypes-là, quoi. Par exemple, Akali, donc un assassin, elle a été refondue visuellement et on voit qu'elle a des formes encore plus exagérées qu'avant, avec une taille de guêpe ultra fine, etc. Donc ouais, on voit que la cible reste encore assez marquée. Et c'est un vrai problème dans les jeux compétitifs qui sont des jeux de tir, c'est du coup qui ciblent encore plus les hommes et qui donnent encore moins envie aux femmes de s'y intégrer, sans compter la discrimination quand on joue, etc.
Mais d'ailleurs, moi l'e-sport, je pense que c'est un domaine qui est hyper important parce que justement c'est beaucoup regardé, c'est beaucoup une représentation, c'est beaucoup des rôles modèles, justement une vitrine. Et je trouve ça tellement dommage qu'on n'arrive pas encore à faire des équipes féminines pour par exemple l'Overwatch League. Et je crois qu'il y a une femme dans l'équipe.
Oui. Il y a une femme on m'avait déjà parlé. Oui, on avait déjà parlé il y a 2 ans justement dans le podcast. La dernière fois, et on avait rappelé qu'elle a subi du harcèlement à tous les niveaux de jeu, donc déjà dans le jeu en lui-même, parce qu'il y a beaucoup de trolls, et bon, ça touche tout le monde, mais forcément quand t'es une femme, ça va tomber sur toi en priorité.
Donc, Overwatch quand même, moi pour avoir joué à CS et à des jeux compétitifs comme ça en ligne, Overwatch c'est genre vraiment le paradis à côté,
ça
si
reste
on compare,
très toxique,
tu trouves,
quand même.
Ouais, parce qu'à chaque game, t'as des messages.
Ah ouais, moi pour le coup, j'ai pas beaucoup expérimenté ça. Après, j'ai expérimenté le wow, t'es une fille, tu joues healer. Trop drôle. C'est pas drôle, mais bon.
Les trolls.
Ouais, voilà, mais bon, en tout cas, les trucs du style on perd parce qu'il y a une fille qui est pas à la cuisse. Enfin, le truc classique que je peux voir sur Twitter. Alors, moi, j'ai pas vécu, mais je doute pas qu'il y ait des filles qui le vivent. C'est juste que, personnellement, j'ai pas vécu. Je pense que, aussi, ça... Je pense que ça dépend beaucoup du elo où on est, aussi.
Elle était déjà à haut niveau. Donc, c'était très toxique. Je connais des femmes qui sont aussi à haut niveau en France, et c'est beaucoup plus toxique dès que tu montes tes niveaux, parce que
les gens
mettent en jeu vraiment leur ego, tu vois. Donc,
j'en sens un peu comme ça.
Donc, elle avait eu ces obstacles-là. Après, elle avait eu les obstacles au niveau amateur, parce qu'il y a le modèle des gaming house qui reste dominant. Donc, comment est-ce que tu fais si t'as 5 mecs, une fille, tu les fais vivre ensemble, jouer ensemble, H24? Comment tu fais, comment ça se gère, surtout pour des jeunes? Après, au niveau professionnel, ça a été compliqué pour être recrutée. Elle a été accusée de triche. En masse, il y a même des joueurs professionnels qui ont dit qu'ils allaient arrêter leur carrière si elle n'était pas bannie du jeu. Et elle a été obligée de streamer en montrant sa main pour montrer qu'elle trichait pas. Donc, voilà. Ça, c'était en Corée du Sud, donc c'était il y a 2 ans. Et c'est vrai que dans l'e-sport, pour le coup, on parle des évolutions. Il y a beaucoup d'évolutions dans le jeu vidéo, etc. Mais dans l'e-sport, ça reste quand même
c'est
très
encore
compliqué.
Très long. Malheureusement, il reste beaucoup de choses à faire au niveau de l'encadrement. Et là,
c'est pas un milieu qui est encore très institutionnalisé. Oh,
voilà, exactement. Puis il y a pas de, syndicat, il y a rien en fait pour s'occuper de ça. Donc là, comment vous appelez ça, c'est pas des éditeurs, c'est
les organisations, les structures.
Ouais, bah ils sont seuls en fait. Ils décident eux-mêmes ce qu'ils font. Mm-hmm. Voilà. Mais totalement indépendants. Ils n'ont pas de. Plus. Ouais, voilà.
Et donc toi, t'es membre de Women in Games, bah, comme nous deux. On est trois membres de Women in Games ici.
Je crois que Carla aussi. Du coup.
Toi aussi.
Tu as rejoint.
Moi, je suis. Alors, je suis sur le Discord, mais je n'ai pas besoin.
Tu n'es pas membre officiel.
Non.
Ouais, c'est déjà bien. Et du coup, toi, tu es membre active aussi dans le groupe e-sport et tu gères une initiative e-sport. Est-ce que tu peux nous en parler justement?
Je peux pas parce que moi je suis pas du coup porte-parole si tu veux.
Oui,
je
mais
peux
tu
parles des actions qui sont en
tu
cours.
Tu peux expliquer ce qu'est l'incubateur par exemple, que tu travailles dessus.
Oui, je peux t'en parler. Alors du coup, Women in Games pour l'instant a lancé trois incubateurs. Donc un sur League of Legends, un autre sur Street Fighter et encore un autre sur R6. Le but étant de monter en niveau les joueuses pour qu'elles puissent intégrer des structures professionnelles ou... Non, c'est ça en fait. Pour qu'elles puissent intégrer des structures professionnelles.
Et voilà. C'est quand
on leur donne un an.
Elles sont entre filles, c'est ça?
Elles sont entre femmes et elles sont coachées par des hommes ou des femmes.
Ok, et après elles vont devoir intégrer des équipes où il y a des hommes?
Alors, de préférence, oui, on vise la mixité.
Ok, ouais.
Et si elles trouvent juste une équipe entièrement féminine, mais qu'elles sont payées, voilà.
D'accord.
Si c'est pro, ça passe aussi. Mais nous visons avant tout la mixité.
Ça marche.
Mais ça m'avait impressionné, les retours justement de l'incubateur, c'est que ça avait prouvé en fait qu'avec un petit coup de pouce pour aider à dépasser en fait tout ce truc de syndrome de l'imposteur, de jugement, de harcèlement ou de tout ça, en fait avec voilà le petit coup de pouce, en fait les femmes arrivaient au même niveau que des hommes au niveau pro, au niveau compétitif.
Il y a donc, moi en tout cas de ce que j'ai lu, il n'y a pas de raison scientifiques pour lesquels les femmes ne peuvent pas.
Les gens se disent l'e-sport c'est le seul endroit où on a personne à séparer, les hommes, les femmes, tout le monde devrait pouvoir jouer ensemble. Et en fait, on n'a pas de femmes et les femmes restent entre elles, etc.
C'est vraiment bizarre, dis donc. Les femmes doivent pas savoir jouer, je vois que ça.
Oui, là, de toute façon, ce qu'on montre, c'est le parcours pendant un an de jeunes femmes qui vont monter en niveau pour créer des rôles modèles, pour inspirer aussi. Il en faut parce que là, si on vous demande, par exemple, si je vous demandais de citer une joueuse professionnelle, ça serait sûrement Kayane.
Voilà. Exactement.
Et Kayane, ça fait combien de temps qu'elle est dans le game, hein? Il y en a d'autres.
Mais heureusement qu'elle est là.
Ah bah, heureusement, notre représentante, mais il faut en citer
mais
d'autres.
Du coup, si j'ai envie de devenir joueuse pro Overwatch, comment on s'arrange?
Overwatch est mort, donc
tu peux arrêter.
C'est Ended Gamer, je suis désolée.
C'est vrai.
Et du coup, on parlait de l'e-sport parce que c'est une partie visible du jeu vidéo, donc c'est hyper important aussi pour créer des vocations, des rôles modèles, etc. Mais il y a aussi le streaming dont on n'avait pas parlé il y a 2 ans, qui est tout aussi important, et où on a aussi peu de femmes, et surtout peu de femmes dans le top. Si par exemple on voit Twitch Metrics pour la France qui fait un classement par mois des streamers les plus populaires, on cherche jusqu'à la 53e position, quelque chose comme ça, pour trouver la première streameuse, qui est souvent Magla. Après, ça peut varier en fonction de ses heures de stream. Et sinon, c'est que des hommes. Donc, pourquoi aussi peu de femmes? Et surtout, pourquoi aussi peu de femmes s'ouvrent sur le sujet, sachant qu'on sait qu'il y a du sexisme aussi sur Twitch? Toi qui as été streameuse, quelle est ton expérience là-dessus?
Alors, je sais pas si mon expérience est vraiment très représentative de Twitch. Faut savoir que, du coup, moi, j'ai créé ma chaîne Twitch via mon ex, parce qu'en fait du coup je suis sortie avec un youtubeur streamer et en fait on a commencé à streamer ensemble, ça m'a plu, du coup j'ai créé ma chaîne. Donc je suis déjà partie avec un petit cadeau bonus de qui était donc sa communauté à la base, qui est ultra bienveillante et ultra cool. Donc en fait j'ai été épargnée de pas mal de choses sur Twitch. J'ai conscience que voilà, j'ai beaucoup de chance et il y a des nanas que je vois ou même des amis à moi qui se lancent sur Twitch et qui ont pas du tout cette chance-là et qui ont besoin d'avoir beaucoup de modos parce que elles ont des remarques sexistes tout le temps ou des commentaires du coup on me voit streamer, génial.
C'est notre jeu.
Non. Et c'est un peu perturbant, oui. mais du coup par contre je peux parler, donc voilà, mon expérience sur ma chaîne Twitch a été plutôt positive, à part voilà quelques commentaires sur mon physique où j'ai un petit peu des stalkers dans ma communauté, j'avoue, mais pour l'instant ils sont doux, donc je les laisse faire. Et par contre j'ai eu une expérience très 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 impactante, on va dire, quand j'ai streamé sur la chaîne de Mademoiselle, parce que du coup j'ai refondé la chaîne Twitch de Mademoiselle.
Qui est ouvertement féministe.
Qui est ouvertement féministe, très engagée, et voilà. Et en même temps, c'était une expérience vraiment très très productive. Enfin,
ça t'a. Enfin, je trouve pas le mot non plus, mais ça t'a appris beaucoup de choses.
Ça m'a appris beaucoup. Et par contre, en fait, j'ai eu surtout des raids. J'ai eu deux fois des raids du forum de 18-25 de jeuxvideo.com.
Des raids qui viennent.
Les leads du net.
Du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les raids?
Alors, vas-y. Alors, je vais commencer par dire déjà sur Mademoiselle. En fait, quand je streamais, c'était hosté sur la première page du site Mademoiselle. Donc en fait, souvent, j'atteignais 1500 viewers, alors qu'en fait, dans le chat, on était entre 30 et 50. Du coup, il y avait plein de personnes qui... Parce que du coup, c'était hosté, en fait. Donc il y avait des gens qui étaient sur la page web, mais qui n'étaient pas sur Twitch. Et donc, il y a plein de gens qui venaient et qui me disaient « Ah, c'est des bots » ou « T'es une fake » ou « Voilà, c'est de la triche » ou enfin, « J'en sais pas quoi ». Donc déjà, j'avais cette première barrière-là. Et en plus, par-dessus, j'avais des raids. Donc je suis montée, je crois, à 2000 viewers avec les raids. Et je sais pas du coup exactement combien dans le chat, mais là, c'était vraiment des viewers présents. Et là, ça, il y avait un flou de... Enfin, c'était impressionnant. Ben, du coup, flou de... C'est plein de gens qui parlent, qui disent des insultes ou qui disent la même chose. Et du coup, le raid de jeuxvideo.com, c'est en gros sur le forum. Je crois que c'est ils créent un forum et ils disent bah on va choisir une cible. C'est un peu le délire. Et cette cible, ça va être cette personne et on va l'insulter.
Les raids contre les femmes sur Twitch, c'est genre une tradition quoi. On en voit tout le temps. C'est un streamer qui va prendre le stream d'une femme et va dire envoyer toute sa communauté dessus en fait en disant allez la flouder, allez la harceler quoi.
Voilà. Et du coup, j'étais pas du tout prête, mais c'est marrant. Autant ça m'est arrivé sur Twitch de mal réagir, de pas savoir comment réagir, de perdre mes moyens. Mais alors là, en fait, genre, c'était tellement d'une violence que, en fait, ça m'a. Genre, je trouve que j'ai bien réagi. J'ai rigolé, en fait. Genre, j'ai pris les gens. Je pense que j'ai pris un peu les gens en dépourvu. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement ridicule que, en fait, bah, j'ai un peu tourné leurs insultes au ridicule. Et j'ai, par exemple, décortiqué le terme féminazie, qu'est-ce que ça voulait dire, d'où ça venait, pourquoi est-ce que c'était quelque chose de négatif, qu'est-ce que ça venait chercher chez eux. Et en fait, bah, soit ça les a fait directement chier que je commence à dire des trucs comme ça et que je sois pas paniquée, peut-être ce qu'ils s'attendaient. Et à la fois, je faisais beaucoup de blagues en fait sur le sujet. Et je me tournais en dérision et je tournais un peu la situation en dérision. Et je l'ai tourné un peu en ridicule aussi. Mais du coup, enfin, je suis super contente de ce que j'ai réussi à faire de ça.
Ça pousse pas à rester sur Twitch, quoi.
Ça pousse pas à rester sur Twitch, mais de cette expérience, en fait, ça m'a permis de me dire, ok, genre maintenant, il peut se passer n'importe quoi sur Twitch, je saurais comment réagir. Et même sur Women in Games, du coup, j'ai fait un petit mini cours de coaching de comment réagir si jamais ça vous arrive. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut avoir conscience que sur Twitch, ce genre de choses, ça peut arriver quand on est une femme, surtout si on a, je sais pas, genre les cheveux roses.
Quand on est végétarienne.
Qu'on est végétarienne.
Alors là, ça commence à faire beaucoup. Hein,
là, c'est violent. Mais je pense que ouais, faut en avoir conscience que c'est pas évident d'être une femme sur Twitch. Je pense que c'est clairement pour ça qu'il y en a pas tant que ça. Et puis surtout que t'as vraiment, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ce jugement-là, mais pour moi, il y a vraiment deux types de streameuses. Il y a les streameuses qui assument complètement d'être des femmes et en font un peu leur marketing, et il y a des femmes qui essayent de le cacher. Et dans les deux cas, en fait, je trouve que on est perdante parce que dans un cas, on va pas être prise au sérieux, et dans l'autre, en fait, on va nous critiquer ou genre, bah t'es moche ou ce genre de choses.
Justement, quand on lance ce débat, il y a toujours des gens pour dire oui, mais il y a aussi des femmes qui abusent du fait de montrer un décolleté pour avoir plus de viewers, plus d'attention.
Et des gens qui regardent.
Du coup, c'est trop facile d'être streamer sur Twitch. Est-ce que pour vous, c'est aussi un problème? Est-ce que vous pensez que c'est un problème et que c'est pour ça aussi que les femmes sont autant harcelées sur Twitch? Moi, je pense que non, évidemment, mais...
Moi, je pense pas. Je veux dire, enfin, déjà, il y a des gens qui regardent, et la majorité des gens qui regardent, c'est des hommes. Donc, à un moment, s'il y a un public, faut pas s'étonner. Enfin, je veux dire, puis en quoi c'est un problème? Première question, enfin, s'il y en a qui veulent montrer leur corps, etc., ben, il y a ceux qui regardent et ceux qui regardent pas, et si ça te plaît pas, ben, tu
regardes pas. On va toujours avoir la culpabilité sur celle qui stream parce qu'elle en profite, mais il y a aussi 1000 viewers derrière
qui sont pareils,
en fait.
Puis bon, si ils aiment bien, ils regardent, et enfin, je veux dire, Internet est tellement grand, on peut aller partout. Ça. Pourquoi rester fixé sur une personne? Enfin, j'ai mal à comprendre.
Oui, parce que c'est vrai qu'une joueuse, enfin, oui, une personne sur deux. Et tu ne joues, mais après le nombre de viewers.
Rapproche ton micro.
Pardon, tu m'entends pas. Donc oui, une personne sur deux est une joueuse, mais le ratio nombre de viewers, ça je sais pas. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus?
Justement, vu que dans le top 50, il y a qu'une seule femme.
Ouais.
C'est clairement pas les personnes majoritaires.
Ah mais sur Twitch et YouTube, enfin Twitch particulièrement, c'est super masculin comme réseau social. YouTube, ça dépend vers quel type de vidéo on se tourne, mais si on se tourne vers du gaming, forcément il y a beaucoup moins de filles. Tu disais, Fanny, que t'avais une chaîne Twitch et YouTube, et genre t'avais genre 10% de femmes, un truc comme ça.
Ouais, à peu près, c'est ça. J'avais les statistiques sur YouTube de nombre de femmes qui regardent mes vidéos, et c'est très drôle, la seule vidéo où c'est l'inverse, c'est j'ai fait un tuto coloration de cheveux. C'est tellement cliché, mais au moins cette vidéo me ramène plus de femmes. Il faudrait que je fasse plus de tutos, voilà, que voulez-vous.
Tuto make-up bientôt.
Tuto make-up, non. Mais, mince, je sais plus ce que je voulais dire. Putain, je suis désolée, je voulais pas te faire de coupure. J'ai voulu
c'est
dire
pas
un
grave.
Truc. Ah oui, ça y est. Je sais que moi, j'avais un avis assez dans l'autre sens, on va dire, sur les streameuses de « Oh, franchement, elles se respectent pas, elles mettent des décolletés, tout ça. Elles pourraient... » Enfin, elles donnent une mauvaise image du féminisme et tout ça, ce truc de la mauvaise féministe. Et en fait, j'ai rencontré une nana qui est maintenant une amie, qui est une streameuse et qui est aussi une camgirl. Et elle m'a complètement fait changer d'avis là-dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, en fait, qu'elle me dise « Mais en fait... le système, il est comme ça, la société, elle est comme ça. » Et c'est à un moment, c'est intelligent de s'en servir. Et elle gagne mieux sa vie que moi, et j'en suis ravie. Et en plus, elle est payée à faire de la caméra. Elle a même pas besoin de toucher les mecs ou de faire quoi que ce soit.
Elle fait un contenu différent sur Twitch.
Elle fait un contenu. En plus, elle fait un contenu très séparé entre Twitch et ce qu'elle fait à la cam. Moi, je trouve ça vraiment brillant, et elle s'éclate. Ce qu'elle fait professionnellement, c'est génial. En plus, elle est quand même respectée. Elle arrive à super bien gérer les mecs relous. Enfin, moi, j'ai un énorme respect pour elle, et je suis contente qu'elle m'ait fait changer d'avis là-dessus.
Moi, c'est pareil. Avant, j'avais aussi cette opinion de, elle se respecte pas. C'est pour ça que nous, on se prend des trucs derrière. J'avais vraiment cette image-là à l'époque. Et je me suis rendu compte que moi aussi, on a essayé de me décrédibiliser à des moments en inventant des choses, etc. dans l'e-sport. Et je me suis rendu compte que moi-même, en fait, je me construisais une image qui était... Enfin, je jouais au jeu des mecs, en fait. Donc, je les aidais là-dedans et c'était complètement débile. Alors qu'on devrait serrer les coudes, vu qu'on est tellement peu nombreuses, plutôt que se livrer une guéguerre entre nous, alors qu'on a déjà tellement d'obstacles autour. C'est du temps perdu, quoi.
Vaut mieux rester soudés entre nous. Et puis après, bon... De toute façon, pour l'instant, le système est comme ça, c'est la norme, elles en profitent, elles ont raison. Bon, il faudrait que ça évolue, mais pour l'instant, vu que les principaux acteurs sont des hommes, ça marche aussi par le partage. Et là, si la première est 43e...
Je demande la même chose, mais qu'on fasse pour les mecs. Genre, qui stream et voilà, qui fasse des trucs aussi, tiens.
Parce que c'est vrai que les mecs, par contre, quand ils n'ont pas de t-shirt, ça passe. C'est pas la même sexualisation.
Qu'on ait des camboys aussi. Non, mais qu'il y ait un peu de légalité. Quoi.
Et du coup, justement, Twitch a mis en place une politique qui était assez sévère sur la nudité, je crois. Ah. Où t'avais des femmes qui avaient des décolletés, elles étaient tout de suite bannies ou quelque chose comme ça, assez automatiquement. Du coup, je me demandais dans quelle mesure Twitch peut agir pour limiter tous ces problèmes aussi de harcèlement, de chat, etc. Est-ce qu'il a sa part de responsabilité aussi, puisque c'est la première plateforme de streaming au monde? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose là-dessus?
Je sais pas. pas la réponse.
Il y a eu le cas Sardoche, mais c'est encore pour un autre problème. Et c'est la première action, en fait, qu'ils ont, à ma connaissance en tout cas, qu'ils ont mise en place, tu vois, comme sanction. Donc ça a été un bannissement pendant 6 mois sur un jeu. Mais sinon, je crois qu'ils ont...
C'était Riot qui l'ont coupé.
Ouais. Mais ils l'ont coupé gentiment. Ils l'ont dit, bon, voilà, t'es gentil, mais on va arrêter. Hein.
Et il y a aussi Clara B, je ne sais pas si vous aviez vu passer ça sur Twitter, qui avait fait une étude des chats des plus gros streamers français. Il y avait Kameto, MrMV, Zerator, etc. Et elle avait regardé le nombre d'insultes sexistes de la part des viewers par rapport au nombre d'insultes sexistes que faisaient les streamers pour démontrer, voir s'il n'y avait pas
corrélation.
Ouais, une corrélation sur le fait que les streamers aussi sont assez toxiques, ils peuvent avoir une communauté toxique qui va aussi entrer dans cette habitude de Twitch et du coup de beaucoup critiquer, aller attaquer sur le sexe, la race, etc.
Alors, cette étude, en plus j'y avais participé pour l'anecdote, mais ça m'a rendu dingue parce qu'en fait sur les réseaux sociaux, cette meuf elle s'est fait incendier, genre parce qu'elle a cité des mecs connus comme Zerator et en fait derrière les communautés ont dit mais d'où tu clashes des gens connus comme ça. Non, c'était le pote de Zerator, Dash.
Il y a beaucoup de...
Pardon.
Son manager.
Vous avez compris. En fait, Dash, je crois, avait répondu au questionnaire et en fait, il s'est fait incendier en disant d'où tu parles de la commu comme ça. Et ça m'a fait trop mal au cœur de me dire, en fait, genre, même eux, en tant que mecs, à partir du moment où ils s'expriment sur leur propre communauté, sur le sexisme, alors que
même
en fait, ils n'avaient rien dit
de
concret, eux-mêmes se font censurer et se font voilà, incendier sur Twitter. Tu m'étonnes que en fait, les hommes ne se prononcent pas féministes. Alors là, ce serait...
C'est ce dont je voulais parler, justement. On sait qu'il y a beaucoup de sexisme sur Twitch et de toxicité en général, qui est un problème, qui est un problème aussi de société, des toxicités, des communautés en ligne, etc. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. Ah oui, il y a post-streameuses et aussi post-streameuses qui sont ouvertement, qui en parlent ouvertement, en fait, du harcèlement qu'elles subissent, etc. Alors qu'elles sont déjà peu nombreuses et on sait qu'il y a du sexisme. Donc pourquoi est-ce qu'il y a aussi ce silence? Et c'est vrai que les communautés, si les communautés censurent déjà les mecs streamers, imagine une femme qui va en parler, qui va perdre, elle sait qu'elle va perdre plein de viewers sûrement et plein d'abonnés aussi.
Bah, il y a quand même des contre-exemples parce que, par exemple, Squeezie, en live, il s'est exprimé sur le sujet, il a parlé féministe. Moi, ça m'a vraiment scotché. Je me suis dit, ce mec avec autant de visibilité qui arrive à parler de ça.
Une communauté jeune aussi.
Une communauté jeune en plus. Et qui, pendant une heure, a parlé voilà, de la place de la femme dans le jeu vidéo. Moi, j'étais vraiment sciée. Et je trouve ça tellement courageux de sa part, en sachant que bah, lui, même s'il a une grande visibilité, il a quand même un grand risque aussi de perdre sa communauté. Et c'est aussi la responsabilité, je pense, des gens justement qui ont une grande audience comme ça. Et je sais que moi, c'est un truc que qui me tient énormément à cœur. J'ai perdu pas mal de followers à cause de ça, mais c'est un truc que je continuerai à faire, même si j'ai une toute petite communauté. Je sais que j'ai un petit peu de visibilité et je veux m'en servir pour.
Ça, c'est triste de se dire que tu sais que tu vas perdre des abonnés si tu fais ça, en fait.
Ouais, mais. Tu perds pas forcément les bons.
Oui, ceux qui restent, c'est
bon. Bon. On a vu Dame Dame aussi qui est très ouverte sur ce sujet parce qu'elle a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de harcèlement. Et aussi Zul The Render qui s'est exprimée dans un article notamment où elle témoignait du fait de remarques de certains streamers, même qui passent et qui ne sont pas sanctionnés par Twitch. De Sardoche qui citait des blagues sexistes que je ne vais pas répéter parce qu'on les a déjà tout entendues. Mais. Ça commence à s'ouvrir, mais c'est vrai que ça reste. Il y a quand même une omerta, je trouve, dans le milieu de Twitch, parce que c'est tellement important aussi d'avoir des contacts pour monter. Aujourd'hui, pour être un bon streamer, il suffit pas juste de mettre sa caméra, de jouer, d'être hyper bon. Il faut aussi avoir un réseau pour aussi avoir plus de viewers. Donc, je pense que c'est compliqué aussi là-dessus de donner son opinion.
Bah, si tu veux, j'avais écrit un petit slogan genre digne des présidentielles. Si tu m'autorises à le dire, je rêve d'un monde où ça deviendrait cool d'être féministe et pas relou, où ce serait normal et pas commercial d'avoir une héroïne dans un jeu vidéo, et on n'aurait plus besoin de Women in Games pour avoir plus de femmes dans le jeu vidéo.
Wow. Ah, j'achète.
Ouais. J'applaudis.
Ah, voilà. Bravo. Votez pour moi.
Ah, le but de Women in Games, c'est de ne plus exister. Hein. On aimerait ne plus avoir besoin d'exister.
Je pense que l'avenir proche, on espère.
Il y a le temps, quoi. Je veux pas être voilà.
Non.
Hein,
c'est pas que ça fait, le but de Women in Games, c'est surtout d'ouvrir la voie et qu'après d'autres personnes puissent prendre du coup la suite.
Mais du coup, petite conclusion, est-ce que vous êtes optimiste sur le futur dans le jeu vidéo en termes de mixité?
Moi, je suis quand même optimiste parce que les choses changent. Enfin, On est, enfin, on a beau voir toutes ces choses horribles qui se passent. Je reviens d'un voyage d'un mois en Inde et je me dis, la France, c'est quand même cool, les choses changent et elles changent quand même pas mal vite par rapport à certains autres pays. Et bon, je m'écarte un peu du sujet, mais je me dis que finalement, on est quand même bien lotis et qu'on a les cartes en main en fait pour changer les choses et qu'il suffit d'agir en fait.
C'était une très belle note. Moi, j'ai pas mieux à dire. Moi, j'espère aussi. Je vois du changement. J'espère que ça continuera et qu'effectivement, ça ne deviendra plus juste commercial et que ce sera la norme, la nouvelle norme pour le futur.
Est-ce que je peux casser l'ambiance, du coup ?
Allez, vas-y.
Non, juste un truc. Dans les... enfin, actuellement, je sais que le STJV, ils ont lancé un appel dans les écoles pour les cas d'harcèlement. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, le STJV, donc le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, a lancé un appel pour savoir les problèmes qu'il y avait dans les écoles. Donc, ça prend en compte plein de problèmes, mais notamment les problèmes de harcèlement, etc. Le fait qu'il y ait des gens qui aient répondu à cet appel, déjà, ça fait peur. Et j'aimerais que dans les écoles, il y ait plus de profs qui... Alors, les profs sont mal payés dans les écoles. Du coup, ça les rend moins investis dans l'école. Mais j'aimerais déjà qu'ils soient mieux payés et du coup, que ça les rende plus investis et qu'ils soient alertes aux problèmes de sexisme. Parce que moi, par exemple, pendant ma première année, le prof... Enfin, alors, est-ce qu'il a pas vu, est-ce qu'il a pas voulu voir, je sais pas. Mais en tout cas, ça se voyait pendant les cours et il y a personne qui a réagi. Donc... il faudrait que les profs soient plus alertes sur ça, qu'ils soient plus formés. Alors le truc, c'est que souvent, c'est des profs pris dans le tas, qui sont mal payés, etc. Donc c'est tout un problème. Mais il faudrait qu'ils soient au moins
sensibilisés
à la cause, parce que je sais qu'il n'y a pas que mon école. Je sais qu'il y a plein d'autres écoles et je sais qu'il y a des gens qui ont répondu à l'appel du STJV. Donc il faudrait qu'il y ait des gens, alors peut-être du STJV parce que je sais qu'ils sont très engagés, mais des femmes qui sont passées par ces écoles-là, etc., qui aillent parler dans les classes et aux professeurs et dire voilà. Et c'est, en fait, pour moi, vu que les étudiants vont former l'industrie, pas que, mais
c'est vraiment la base. L'éducation.
Exactement, c'est la base. Et je pense qu'il faut le prendre à la racine. Et c'est dans les écoles que le truc, c'est que par exemple, tout ce qui est le mouvement qu'il y avait à Riot Games, etc., genre, on n'en a pas entendu parler à l'école. À l'école, il n'y avait pas ce sujet du tout. Et c'était jamais mis sur la table parce qu'il y avait une majorité de mecs et que nous, entre filles, on n'en parlait pas. Du coup, je pense qu'il faudrait apporter ce sujet qui est des sortes de... comme des cours d'éducation sexuelle quand on était en primaire, mais là pour le sexisme dans le jeu vidéo,
c'est assez triste de dire qu'il faut le faire, mais
et il faut le faire parce qu'on n'a pas. Donc
c'est nécessaire.
Donc je pense que ce serait cool qu'il y ait des femmes qui sont passées par des écoles, qui viennent parler, etc., qui parlent aux professeurs, qui parlent aux élèves aussi pour voir s'il n'y a pas des problèmes à l'intérieur.
C'est déjà un peu le cas du coup avec Woman Games. Moi, je suis allée à Lisa notamment. C'était un peu catastrophique parce que je savais pas du tout, j'étais pas préparée, mais c'était trop cool. Et maintenant que je suis un peu plus préparée, j'espère pouvoir le refaire et rejoins-nous chez Women in Games, Carla, ouais, pour venir intervenir dans les écoles.
Toi.
Mais oui, je pense que carrément, on parlait tout à l'heure de l'effet de masse, de l'effet de groupe. Et en fait, c'est super dur de se prononcer et de parler et de contrer en fait l'avis de tout le monde qui va te dire genre soit tais-toi, soit fais comme les autres, et d'un moment se dire bah non, en fait il se passe quelque chose qui va pas, soit parce que tu en es la victime, soit parce que quelqu'un que tu connais en est la victime. Et c'est super dur, mais il faut vraiment le faire. Et je pense que
un truc qu'ils font souvent dans les gens qui ont par exemple les clubs sportifs où il y a des viols parfois, etc., c'est qu'il y a quelqu'un qui vient parler et à la fin ils disent bah voilà, si vous voulez en parler, on peut en parler ensemble tous les deux, etc. Je pense que ce serait une super idée qu'il y ait des femmes qui viennent en parler, qu'à la fin ils disent bah voilà, si vous voulez en parler, venez me voir, ou alors on fait passer un papier ou un truc comme ça, pour que ça puisse connecter les deux personnes et pour que l'autre personne puisse parler sans se sentir jugée, quoi. Ce serait vraiment cool.
Bah moi je suis aussi optimiste. Mais au niveau de l'e-sport, en tout cas, je suis déjà moins optimiste parce que les choses sont tellement loin au niveau du jeu vidéo que l'e-sport, c'est encore en dessous. Et tant qu'il ne sera pas plus institutionnalisé aussi et que plus encadré, je pense qu'il n'y aura pas d'évolution. Mais pour le jeu vidéo, en tout cas, j'ai plus d'espoir. Et du coup, sur cette note, j'aimerais faire un petit shout-out aussi au marathon du Many Games qui est en train d'être terminé, là, sûrement, pendant 48 heures. Et Anna travaille dessus, d'ailleurs. Bon courage. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter comme d'habitude, sur le site. On mettra aussi les réseaux sociaux de nos intervenantes. Et sur ce, à la prochaine.
Ciao.
Ciao.